avançant, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda ont décidé de déposer les arbres pour donner la chance à la paix dans les Grands Lacs. Cette annonce a été faite ce week-end par le colonel Wilson Irategeka, secrétaire exécutif intérimaire de ce mouvement rebelle. Et pour le gouvernement congolais, si cette décision se confirme, ce serait une avancée vers la paix dans la région. Quelle analyse faire de cette déclaration? Cette déclaration pourrait-elle favoriser le retour de la paix dans le Grand Lac? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Maître Juvenal Munubo Mubi, député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. Maître Juvenal, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs.
Et le professeur Bouendwa Eluga Essi, recteur de l'université libre Julius Nyerere de Bukavu Sud-Kivu. Il est aussi directeur du centre des recherches et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur Bouendwa, bonsoir.
Bonsoir, salam zangu kawote.
Merci de nous suivre à Goma, au Nord Kivu, sur la 105.2. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR en sigle, ont décidé de déposer les armes pour, disent-ils, donner la chance à la paix dans les Grands Lacs. Cette annonce a été faite le week-end dernier par le colonel Wilson Irategeka, secrétaire exécutif intérimaire des FDLR. En réaction, le porte-parole du gouvernement congolais affirme que si cette décision se confirme, ça serait une avancée vers la paix dans la région. Le ministre Lambert Mende est joint au téléphone par Richard Kamunga.
Si cela se confirmait, ce n'est pas sans intérêt pour nous, dans la mesure où cela répondrait au terme de l'ultimatum qui avait été lancé par le président de la République en direction de tous ces groupes armés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Nous avons toujours dit que les FDLR n'avaient rien à faire en République démocratique du Congo, quelles que soient leurs revendications, et que à défaut de se désarmer volontairement, ils le seraient par la méthode forcée. Nous avons même commencé à procéder à ce désarmement forcé malgré les dénégations du voisin rwandais pour des raisons que nous ignorons. Un tel développement permettrait d'accélérer effectivement le retour à la paix dans cette partie de notre région des Grands Lacs.
La MONUSCO, de son côté, affirme qu'elle ne se laissera pas tromper par des déclarations d'intention des groupes armés pour annuler les opérations de désarmement en cours. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi à partir de Goma le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU qui intervenait lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Pour le général Abdallah Wafi, si les FDLR ne déposent pas les armes avant la fin des plans opérationnels en cours d'élaboration, ils seront attaqués et désarmés par force. On écoute le général Abdallah Wafi dans cet extrait proposé par Michel Kifinda.
La résolution 2098 nous demande d'appuyer les autorités congolaises pour neutraliser tous les groupes armés, y compris le FDLR. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de préparer des plans opérationnels pour nous engager contre le FDLR. Tant qu'ils n'auront pas désarmé, les déclarations d'intention ne nous engagent pas. Il faut que ce soit clairement entendu. Ceux qui savent où se trouvent les bases des FARDC, ils savent où se trouvent les bases de la MONUSCO, qui s'y rendent tout de suite. C'est clair, c'est net, c'est un message officiel, solennel. S'ils ne désarment pas, nous ne nous contenterons pas de déclaration d'intention. Il y a de cela quelques jours, dans le territoire de Libero, des atrocités ont été commises. Et pendant ce temps, on veut amuser la galerie par des déclarations, par des conditionnalités. Non, notre position est claire. Nous allons les engager. Dès que les conditions seront créées, nous allons les engager.
C'était là le général Abdallah Wafi. Julien Paluku, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Comment avez-vous accueilli cette déclaration ou encore cette décision des FDLR de déposer les armes?
Oui, merci madame, je vais commencer par saluer mes deux compatriotes, l'honorable Juvenal, le professeur Bouendoua. Comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, tout le monde ne peut qu'accueillir avec beaucoup de satisfaction une telle annonce, comme moi-même j'ai eu à le suivre par la bouche du colonel Wilson, Irategeka, et même le président de ce mouvement FDLR, le général Victor Birindiro, je l'ai suivi également, qui a dit que ce mouvement est décidé à déposer les armes. Mais moi, j'ai une interrogation, parce que j'ai suivi ce processus depuis que j'étais encore administrateur des territoires en 2001. Parce que déjà en 2001, on avait assisté à de telles annonces lorsque les FDLR se sont regroupés à Kamina, où ils avaient même récupéré plus de 100 000 armes. Ils disaient qu'ils étaient prêts à rentrer chez eux. Je me rappelle que même en 2005, il y a eu une déclaration à Rome où les FDLR avaient encore dit que non, le groupe était décidé à retourner chez eux de façon organisée, de façon volontaire, de façon inconditionnelle, ce qui a d'ailleurs provoqué une autre réunion à Kisangani en mai 2008 où on voulait mettre en œuvre la déclaration de Rome. Et je me rappelle que quand j'ai été élu gouverneur en 2007, nous avons accompagné ce processus en regroupant avec le gouvernement central une centaine de FDLR au sud du territoire de Lubero, particulièrement dans la localité qu'on appelle Kasiki. Mais avec tout ce processus que nous avons noté, il y a eu deux faits majeurs qui ont court-circuité le processus de regroupement des FDLR. D'abord, c'était qu'au même moment où on était en train de les regrouper, le Rwanda a sorti une liste de 6997 génocidaires à l'époque, ce qui a créé la peur dans les chefs de qui étaient déjà regroupés au sud du territoire de Lubero. Le deuxième fait qui a court-circuité la démarche, c'est que Laurent Kunda, qui était à l'époque dans les démarches de ce qu'on appelait le programme Amani, qui avait intégré ces hommes, a recommencé la guerre au mois d'août 2008 et il s'est dirigé vers la localité de Kasiki pour aller disperser les FDLR qui se sont réunis, on avait regroupé dans cet endroit-là. Alors, moi je pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, cette fois-ci, ce à quoi nous avons assisté par l'État passé ne va pas survenir? Ça c'est le premier palier d'analyse. Le deuxième palier, est-ce que les FDLR n'ont pas peur de la montée en puissance des FARDC avec l'annonce des opérations contre toutes leurs bases après celles qui sont organisées contre les rebelles ougandais du FNALU et spécialement l'appui de la MONUSCO qui a la détermination d'appuyer les FARDC pour détruire les restes des bases résiduelles des FDLR? Voilà autant d'interrogations qui m'amènent effectivement à analyser très froidement cette déclaration des rebelles FDLR qui, à mon sens, si elle était vraie, ne peut qu'enchanter les Congolais parce que ce sont eux qui souffrent de leur présence sur le sol congolais.
Alors, monsieur le gouverneur, on a suivi le porte-parole, plutôt le général Abdallah Wafi, qui est représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, lui qui pense que ces déclarations, c'est des déclarations d'intention pour annuler les opérations de désarmement en cours.
Oui, je suis tenté de croire aux propos du représentant spécial adjoint de la MONUSCO, parce qu'au même moment que l'FDLR annonce qu'il dépose les armes, au même moment, dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Lubero et dans les territoires de Walikale, on note des mouvements de ces FDLR vis-à-vis de nos populations locales. Il y a des centaines de gens qui sont en train de se déplacer en quittant leur milieu pour venir vers les grandes agglomérations. Alors on se pose la question, quelqu'un qui annonce qu'il veut déposer les armes et qu'il veut intégrer le processus de paix, qu'il veut être rapatrié volontairement chez lui, comment peut-il encore se livrer à des actions vis-à-vis des populations qui l'ont gardé depuis tout ce temps? Voilà qui m'amène donc moi-même à épouser le point de vue du général Wafi qui estime qu'on ne doit pas se fier à ce genre de déclarations qui risque de nous distraire et d'empêcher la planification qui est en train d'être faite pour devoir neutraliser, comme on l'a fait contre l'M23, ces bases résiduelles des FDLR, des EDF Nalou et de tous les groupes armés qui nous déstabilisent depuis des dizaines d'années dans la province du Nord-Kivu.
Alors vous dites qu'on ne doit pas se fier à ce genre de déclaration, mais pourquoi vous, tout à l'heure, je vous ai posé la question, comment vous avez accueilli cette déclaration? Vous vous êtes dit satisfait?
Oui, j'ai dit je ne peux être satisfait que si cela s'est réalisé, sous réserve des analyses que je viens de vous faire, en 2001, en 2005, en 2008, on a assisté à ce déclaration de bonnes intentions. Mais si cette fois-ci la déclaration est la bonne aujourd'hui, on ne peut que la saluer, on ne peut que vouloir que ces gens quittent chez nous. Parce que chaque jour, on assiste à des rapatriements par notre commission ici au niveau de la province, des Rwandais qui rentrent chez eux. Si tous, on peut les voir sortir de nos forêts pour qu'ils aillent chez eux et continuent leur combat au niveau de leur pays, je crois que ça nous enchanterait, nous tous, parce que nous nous serons libérés de ces grands obstacles à la paix, à la stabilité, surtout que les Rwandais les ont toujours considérés comme le seul prétexte contre lesquels ils veulent toujours rentrer chez nous. Et quand on finit rentrer chez eux, je crois que ça sera pour nous une très bonne occasion de voir si les Rwandais pourraient encore un autre jour trouver un autre motif pour penser qu'ils peuvent encore se promener comme il l'a fait par le temps passé.
Alors, monsieur le gouverneur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Mathieu Bawé, depuis Goma, en province du Nord Kivu. La volonté émise par les FDLR de déposer les armes doit être aussi encouragée par le gouvernement rwandais et les Nations Unies. Sauf que le régime actuel du Rwanda conteste toute idée qui tend vers un processus de négociation. D'où le préalable des FDLR ne sera jamais écouté par Kigali, à moins qu'il y ait une pression de la communauté internationale. Et cette pression ne peut être effective que sur demande du gouvernement congolais étant victime de la dite rébellion.
Comment vous répondez à cet auditeur qui pense que le gouvernement congolais doit faire pression sur la communauté internationale afin que celle-ci dissuade le Rwanda à pouvoir parler ou négocier avec les FDLR?
Je ne serai pas le premier, madame, à le dire, parce que même le président tanzanien a évoqué cette question. Vous savez que l'attitude des Rwandais est très déterminante dans les processus de paix dans la région des Grands Lacs. Il y a des gens qui ont tenté de rentrer chez eux, comme madame Victoire Ingabire, comme Do Mushayudi, comme Bernard Ntaganda, mais qui se sont retrouvés tout de suite en prison. Je pense que cela n'a pas encouragé d'autres Rwandais à pouvoir rentrer. Et donc l'attitude du Rwanda à ce stade est très déterminante, parce que si le Rwanda continue à globaliser le phénomène du génocide, à croire que même les enfants qui sont nés en 2000, en RDC, qui ont aujourd'hui 14 ans, sont génocidaires, s'ils continuent à faire ça, eh bien, on sera loin de pouvoir arriver à la paix dans la région des Grands Lacs.
Mais donc, le gouvernement congolais doit faire pression aussi de son côté pour que la communauté internationale demande au Rwanda de négocier avec ses FDLR, selon cet auditeur qui nous a écrit. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, moi je pense que le gouvernement congolais doit porter l'affaire, non pas seulement au niveau de la communauté internationale, mais dans les structures régionales. Nous avons déjà la conférence internationale qui a aidé à résoudre la crise en RDC. Il faut que s'il y a une voix à porter beaucoup plus loin, que le gouvernement congolais les porte au niveau de la CIRGL,
de
la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ou au niveau de l'Union africaine, pour devoir verser la question dans ces structures et voir comment ces instances vont devoir les traiter.
Merci, monsieur le gouverneur, maître Juvenal Mounoubo Moubi. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC, en sigle. Quelle est votre analyse ou votre lecture par rapport à cette déclaration des FDLR qui décide de déposer les armes?
Je voudrais, comme l'a dit le gouverneur Paluku, ce n'est pas la première déclaration des FDLR. Il a rappelé la déclaration de 2005 de Rome, avec l'accompagnement de la communauté catholique Sant'Egidio. Il y a eu aussi un communiqué, je crois, en 2009 à Paris, signé Calixte Mbaushimana.
En 2001 aussi. Hein.
Il y a eu plusieurs déclarations et la prudence, je crois que c'est une bonne attitude, évidemment, à observer. Il y a trois hypothèses de par mes analyses. La première hypothèse, c'est que les FDLR ont peur, c'est la crainte, parce qu'il faut quand même avouer que la crainte envers les FARDC d'abord, qui ont été réveillés, il faut le dire, avant la victoire sur le M23, il y a la peur aussi de la MONUSCO, la brigade d'intervention, il faut avouer cet engagement aussi de la communauté internationale. Et il faut avouer qu'ils ont été affaiblis. Et je l'avais dit d'ailleurs en date du 3 décembre 2013 dans une intervention à Jeune Afrique, que et même les Maïmaï, les groupes Maïmaï, certains groupes Maïmaï ont même combattu les FDLR. Donc tout ça, ça a contribué en quelque sorte à leur affaiblissement. Mais ils ne sont pas vaincus pour autant, il faut faire attention. Une deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est peut-être une ouverture, pourquoi pas. Raison pour laquelle je n'apprécierais pas trop l'attitude qui consisterait à se méfier de cette déclaration. Il ne faut pas d'emblée considérer, et se limiter à ça, considérer que c'est juste une déclaration d'intention. ça peut être, pourquoi pas, une fenêtre d'ouverture. Et c'est là où je ne suis pas très content de la déclaration de M. Lambert Mende. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il dit que c'est sans intérêt pour nous, il faut savoir que c'est un fardeau, le FDLR. C'est un fardeau sur le Congo, sur la tête du Congo, sur nos compatriotes. Et c'est utilisé assez souvent comme, avant c'était une raison, mais en réalité souvent un prétexte pour la déstabilisation du Congo, pour les agressions. C'est aussi une justification, comme je l'ai dit, certains groupes Maïmaï ont trouvé une justification à combattre l'élève de l'air. Bref, il faut s'en affranchir, il faut vite agir de façon à ce que cette question, qu'on mette fin à cette question FDLR. Et je crois que le gouvernement congolais a tout intérêt. Et je crois que ce que le gouvernement congolais devrait faire, c'est normalement en collaboration avec la MONUSCO, suivre de près, parce que dans la déclaration du 30 décembre 2013, ils se sont engagés à déposer les armes et à mener un combat politique. Ils ont même appelé la MONUSCO.
Ils ont déposé les armes, mais ils n'ont pas rendu ces armes.
Bien sûr. C'est le gouvernement qui doit suivre maintenant comment est-ce que ces armes seront rendues, dans quel site, les rendez-vous et puis quel jour, et combien d'armes ont été remises. Donc le gouvernement congolais a intérêt à prendre à bras le corps cette situation.
Ils ont posé une condition, Maître Juvenal Mubo. Pour eux, avant de rendre ces armes, il faut que les négociations débutent avec Kigali.
Ça risque d'être compliqué. Au sein de l'Union pour la Nation congolaise, nous ne parlons pas vraiment des négociations avec Kigali, mais nous pensons qu'il est important une ouverture politique au Rwanda, pourquoi pas. Donc si nous demandons la démocratisation au Congo, je crois qu'il est tout à fait normal que la même requête soit adressée auprès des gouvernements de la sous-région, au Rwanda, et en Ouganda et dans d'autres pays. Pourquoi ? Comme ça, nous aurons une RDC démocratique, un Rwanda démocratique, l'Ouganda démocratique et les grands lacs qui vivront dans la paix. Donc, il est tout à fait normal. Nous voulons, en fait, c'est un souci partagé, en tout cas chez nous, c'est un souci partagé par plusieurs analystes, qui est ouverture politique au Rwanda. C'est important. Donc, et je ne pense pas qu'il faille poser ça comme préalable. S'ils veulent renoncer à la lutte armée, comme ils l'ont dit dans les communiqués, c'est-à-dire ça doit se matérialiser par les dépôts effectifs des armes.
Et donc on ne doit pas trop croire en leurs déclarations.
Bon, mais non plus on ne peut pas s'en méfier. Parce que ça ne peut pas s'opérer, tout ceci ne peut pas s'opérer par génération spontanée. Il faut suivre, il faut que le gouvernement, parce que la MONUSCO a des bases sur terrain, et la MONUSCO, là où elle a des bases, elle n'est pas loin des concentrations de FDLR. Donc il y a lieu de suivre, de les prendre au mot, et de voir si cette fois-ci les choses vont avancer.
Alors on va prendre pour vous, Maître Juvenal, cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province orientale.
Moi, c'est Pepe Lissangi Botomoito, je vous appelle depuis la province orientale à Kisangani. Les déclarations s'effacent alors que ces FDLR continuent à tuer les Congolais. Le cas de la semaine dernière où ils ont attaqué un village du territoire de Beni. Nous devons être prudents avec ce genre de déclarations car jusque-là, il n'y a aucun compromis entre les FDLR et le gouvernement rwandais. Comme il n'y a pas toujours compromis pour le retour au Rwanda, si le gouvernement de la RDC ou la CIRGL accepte cette histoire, ces FDLR seront installés ou encadrés par qui pour combien de temps, et s'ils ne sont pas acceptés au Rwanda, que deviendra-t-il au Congo? Je trouve cette position des FDLR distractive.
Comment vous répondez à cet auditeur?
Oui, je comprends les craintes de l'auditeur. Pourquoi ? Parce que les exactions continuent à se commettre. Raison pour laquelle je crois que au même moment qu'il faut voir dans quelle mesure trouver une solution globale qui passe aussi par la création des conditions incitative au Rwanda, tout ce qui concerne l'ouverture politique. Il faut maintenir les faits. Il faut les maintenir vifs. Et là, c'est la tâche des FARDC, c'est la tâche de la MONUSCO, de la brigade d'intervention. Je rappelle ici qu'après la M23, la priorité, c'était les FDLR, si j'avais bien suivi. Et je crois qu'il faut aussi arriver à élaguer ou à résoudre un peu ce qui a été perçu comme discordance par rapport aux priorités après la M23. Est-ce que la priorité, c'était quoi? C'était les ADF Nalu? Est-ce que c'était les FDLR? Il faut préciser. Et, bon, je crois qu'il faut maintenir le feu, mais cela n'exclut pas voir dans quelle mesure on peut trouver une solution définitive et durable à cette question. Et je crois aussi que par rapport aux opérations militaires, il serait intéressant de mener une évaluation. Je ne sais pas si c'est déjà fait, parce que plusieurs opérations militaires ont été expérimentées dans le passé. Et certaines de ces opérations, je vois par exemple au Mojawetu, Kimiade, Amanileo, c'est des opérations pratiquement caméléon qui ont changé de nom. Je rappelle ici que l'AFDL, les RCD, les CNDP, tous avaient comme focus lutte contre la FDLR. Eh bien, il faut évaluer tout ça. Pourquoi ? Parce que ces opérations ont entraîné des dégâts collatéraux. Il y a par exemple le massacre de Boussourung, il y a un territoire de Walikale, des dizaines de personnes, presque 60 personnes sont mortes lors des représailles après une traque de FDLR. Bien, il faut bien organiser, il faut bien planifier. Je crois que de bons plans existent ou sont en cours de préparation pour limiter les dégâts collatéraux que ce genre d'opération
comporte. Alors, on retient, Maître Juvenal, pour vous, il ne faut, faut pas se méfier ou penser que c'est une déclaration d'intention. Il faut suivre ces FDLR et les prendre au mot. C'est bien compris.
Exact.
Voilà. Professeur Bouendoua Elouga ici, vous êtes, je rappelle que vous êtes recteur de l'Université libre Julius Nyerere de Bukavu Sud-Kivu. Vous êtes aussi directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grand Lac. Quelle est votre analyse à vous par rapport à ces déclarations?
Je vais d'abord saluer son excellence, monsieur le gouverneur Julien Paluku, avec qui on a beaucoup d'affinité. D'abord, félicitations pour quand même un peu de répit et beaucoup de bonnes choses qui s'avancent dans notre chère province du Nord-Kivu. Moi, des formations littéraires, un tout petit peu de mes origines, je vais commencer par dire, j'apprenais en latin que quid Quid est, simeo, danaos et dona ferentes, ce qui se traduit par « quoi qu'il en soit, je crains les Grecs même quand ils donnent des cadeaux ». Les Grecs, ici vus dans notre province, au Sud-Kivu, au Bouchi, en l'occurrence, c'est que tout simplement, on a peur. Mais ce n'est pas parce que tout simplement les FDLR disent quelque chose qu'il faut les prendre au mot. Mais bon, dont acte, comme on dit. Mais moi, je vais situer mon analyse à un double niveau. C'est lié du point de vue à partir du Congo et c'est lié du point de vue à partir du Rwanda. Je remarque tout simplement que nous sommes dans une situation où on doit considérer que le dépôt des armes de nos amis, entre guillemets, du FDLR, ce n'est pas une reddition. Premier point. Deuxième point, je me mettrai à dire tout simplement et rappeler à tout le monde que le FDLR ne sont pas que des forces militaires, elles sont entre autres, tour à tour et en même temps, des forces politiques, des forces économiques, des forces culturelles, des forces sociales. À ce niveau, à ce cadre, triple niveau d'analyse, je me permettrai de rappeler tout simplement, encore toujours du point de vue les plafonds du Rwanda, commençant par nos voisins, parce qu'ils sont nos voisins, éternels voisins, sempiternels voisins, uniques voisins pour ce qui nous concerne. Mais je dirais que politiquement, le président Kagame ne veut pas d'un dialogue où tout pire. Il n'en veut pas pour ces raisons. Un niveau économique, donc économiquement, je remarque que le sol congolais est trop juteux, trop laiteux, trop savoureux, trop mielleux pour des Rwandais qui sont assis sur vraiment des mines sempiternelles, des cavernes d'Ali Baba, je suppose. Un troisième niveau, du côté rwandais toujours, de mon point de vue, je remarque que le regard Tutsi-Hutu sur le Kivu reste le même. En quelque sorte, cette idée-là d'une sorte de terre à conquérir, d'une sorte d'espace vide, d'une sorte de no man's land, d'une sorte de terra incognita. Et j'ai comme l'impression que ça, culturellement, ça n'a pas fini. Et pour cela, j'ai un peu d'origine de vers ici où souvent les Bashi ont ce petit proverbe qui me font tilt, mais qui n'en demeure pas moins de leitmotiv politique, économique et culturel. Et ils disent toujours les Bashi ici, et on est Rwanda et Ringa. Ça veut dire que tout ce qui vient du mal vient du Rwanda. Mais n'empêche que c'est une idée qui reste là. On ne verra pas les gens s'en remettre. Et aussi, j'ai comme l'impression que nous nous situons socialement, c'est un quatrième niveau d'analyse, où nous pouvons dire que nous sommes en face de la même misère, des mêmes problèmes. 20 ans où, au fait, ni les Rwandais ni les Congolais n'ont pu réussir à fonder ni une économie intégratrice, ni des relations politiques fédératrices, ni de situations économiques qui nous mettent encore en marche vers la situation. Alors, je vais quitter le côté congolais, je vais quitter le côté rwandais, je vais le regarder du côté congolais. Je me vois vraiment politiquement la province du Sud Kivu. Je m'excuse pour l'excellence, monsieur le gouverneur du Nord Kivu, monsieur Sud Kivu, mais bon, il balancera, il dira ce qu'il pense. J'apprécie beaucoup ses analyses, même quoi qu'il en soit. Mais je dirais que la province du Sud Kivu est vraiment une sorte de proconsulat. Proconsulat, parce que je remarque que nous, notre gouverneur de province, assez souvent, ses absences, ses présences à Kinshasa inquiètent beaucoup, d'autant plus qu'on n'a même pas de vice-gouverneur. Politiquement, ça nous pose un problème. Nous avons le problème des Gatumba. Nous avons un territoire 10 fois plus grand que le Vatican, Gatumba, la frontière entre le Congo et le Burundi, qui est occupé plus de 25 ans, on n'en parle pas, ça crée un malaise, et c'est un sacré malaise. Et moi, je me dis que nous avons tout un tas de problèmes au niveau, par exemple, de la territoriale. Les administrateurs du territoire se plaignent, les chefs de secteur se plaignent, parce que tout simplement, le Sud Kivu est un territoire inaccessible, alors que... c'est la province, en fait, la plus ancrée à l'étranger.
Alors, professeur Bouenzo, vous ne croyez pas trop dans la déclaration des FDLR de déposer les armes, si je comprends bien.
Vous avez très bien compris.
Merci.
Madame, vous lisez entre les lignes, vous avez vraiment une sorte, comment ça s'appelle, de... non, merci beaucoup. Moi, ce que je veux dire, c'est économiquement, politiquement, au Sud Kivu, nous sommes en détresse. Au Nord Kivu, c'est aussi le cas. Parce que nous partageons quand même cette
merci, chance, professeur.
Mais aussi ce malheur d'être en face des réalités qui nous dépassent, qui nous surpassent et qui sont toujours difficiles.
Merci, oui. Professeur Bouenzo. Merci, professeur Bouenzo. Julien Paloukou, il y a Jules de Kinshasa qui dit ceci, cette déclaration des FDLR, c'est de la poudre aux yeux, elle n'engage que son auteur. Les FDLR doivent plutôt se mettre en tête qu'ils sont entrés au Congo sans passeport ni visa et de surcroît armes à la main. Ils doivent être traités comme tels. Ils doivent être traités comme tels. Bref, cette déclaration est une suite des manœuvres du Rwanda. Est-ce que le Rwanda serait derrière cette déclaration des FDLR pour continuer à venir les chercher au Congo, comme souvent le gouvernement rwandais le dit?
Oui, c'est son point de vue, et comme vous me connaissez très bien, je respecte le point de vue de chacun. Lorsque l'auditeur dit que ça peut ressembler à une poudre aux yeux, j'ai eu à effleurer ce type d'analyse en disant, est-ce que réellement les FDLR ne craignent pas effectivement cette montée en puissance des forces armées, car on sait surtout que la MONUSCO aussi va devoir les appuyer pour devoir détruire les dernières bases qui restent. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que les FDLR sont en train de vouloir faire cette sorte d'appât pour attirer le gouvernement congolais, les Nations Unies et tout le monde, et ainsi cesser de planifier les opérations contre eux? Donc c'est possible que les analyses aillent dans le sens. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que si réellement c'est cette fois-ci la bonne déclaration actuellement, je crois que ceux qui seront les plus heureux de cette déclaration, c'est le peuple congolais. Parce que quand vous arrivez à Walikale, quand vous arrivez au sud de Lubero, quand vous arrivez dans le Machiti, les exactions que commettent
ces FDLR, c'est sur les Congolais. C'est d'ailleurs pourquoi, dans toutes mes analyses, j'ai toujours dit qu'on doit balayer des revers de la main, l'idée selon laquelle les FDLR constituent une menace contre les Rwandais. Au stade actuel, les FDLR constituent une menace d'abord contre le peuple congolais, d'abord contre la RDC, et peut-être ensuite, maintenant, contre les Rwandais. C'est la raison pour laquelle je salue cette déclaration si réellement elle est suivie d'actions concrètes qui vont dans le sens de les regrouper et de les amener demain après demain dans leur pays.
Et comment vous réagissez, monsieur le gouverneur, vous analysez la réaction du Rwanda à cette déclaration des FDLR, le Rwanda qui est catégorique, qui n'est pas prêt à aller aux négociations avec les M23, plutôt les FDLR?
Oui, vous savez, dans la région des Grands Lacs, le Rwanda a connu un des pires génocides que l'humanité n'ait connu. Et à la suite de ces génocides, eh bien, ces positions ont souvent été entendues. C'est ce que j'ai toujours dit. Ça a été comme une bonne marchandise qui a été vendue, même quand on sait que réellement, ça a été un génocide. Et que cela a aveuglé la plupart d'acteurs internationaux qui ne voient plus autre chose que ce génocide qui a eu lieu en 1994. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tous les États du monde pensent qu'il faut trouver des solutions aux problèmes par un processus de réconciliation, par un processus de négociation, il s'avère que quand il s'agit du Rwanda, tous ces États-là qui conseillent les autres États à adopter ce modèle de conduite, ils ne le font pas pour le Rwanda. Et c'est cela qui interpelle quand on dit, est-ce que tous les génocidaires ou tous les Rwandais qui se trouvent à l'extérieur du pays sont-ils réellement des génocidaires? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un, le fait d'avoir entendu parler du génocide, il a déjà l'idéologie du génocide au point qu'il soit exclu à un quelconque dialogue qui intéresse son pays? Donc je crois que le Rwanda, et je l'ai dit, son attitude est très déterminante dans la résolution de la crise dans les Grands Lacs et surtout dans cette nouvelle offre que nous donnent les FDLR.
Merci.
Si le Rwanda saisit la balle au bon, eh bien, ça peut être un début de solution à cette crise qui n'a que trop duré.
Merci, monsieur le gouverneur. Maître Juvénal Mounoubo. Alors, on va commencer avec vous cette deuxième partie de notre débat de ce soir. Est-ce que cette décision des FDLR pourrait-elle favoriser le retour de la paix dans les Grands Lacs?
Étant donné que ce n'est pas la première déclaration, et je suis aussi de ceux-là qui pensent que ça peut être une déclaration d'intention, mais je n'attends pas une solution que tout s'opère comme par une sorte de génération spontanée. Je pense que tous les mécanismes doivent être activés, comme je le disais. La MONUSCO est présente. Elle a des bases à l'intérieur de Walikale, là où se trouve même la FDLR. Pourquoi, à partir de la MONUSCO, ne pourrait pas directement leur demander de concrétiser ce qu'ils ont déclaré le 30 décembre 2013. Raison pour laquelle moi je ne pense pas qu'il faille rester, la déclaration elle a été faite, nous la considérons nous tous qu'il y a de fortes chances qu'elle ne soit qu'une déclaration d'intention, et la suite, comment la suite va s'opérer, c'est ça le problème.
Et au cas où ils déposaient réellement les armes, est-ce que ça serait un début des solutions ou une solution pour le retour de la paix, si j'ai dit dans le Grand Lac en général, mais en particulier dans le Nord Kivu?
Leur dépôt des armes au Congo, ça sera une grande étape. Mais l'autre étape, c'est quoi? C'est que de l'autre côté, c'est-à-dire au Rwanda, il faut qu'il y ait des conditions qui attirent, des conditions de retour soient mises sur pied. Et comme le professeur Bouenda l'a dit que cette question n'est pas qu'une question à traiter militairement, il y a une bonne dimension politique, raison pour laquelle l'ouverture politique au Rwanda, c'est une autre dimension, il faut en tenir compte, c'est un autre aspect pour que la paix arrive petit à petit dans la région des Grands Lacs.
Et le Rwanda qui n'est pas prêt à accueillir, à négocier avec ses FDLR?
Je crois que c'est dans l'intérêt du Rwanda. Peut-être pas à négocier en tant que tel. Vous savez que l'ouverture politique, ça implique beaucoup de choses. Et il n'y a pas que la négociation, mais l'ouverture politique, c'est-à-dire permettre à ce qu'il y ait d'autres sons de cloche à l'intérieur du territoire national, dans l'échiquier politique. Je crois que c'est dans l'intérêt du Rwanda, c'est pour la paix également au Rwanda, et c'est dans l'intérêt de la sous-région également.
Alors, il y a Kabayo de Manono Katanga qui dit ceci. La déclaration faite par les FDLR n'est qu'une déclaration d'intention à laquelle on ne peut accorder aucun crédit. N'est-ce pas là une façon de chercher à distraire l'opinion tant nationale qu'internationale, surtout pendant cette période où la MONUSCO persiste et signe que leur priorité reste la neutralisation de ce groupe armé après le M23. Je veux revenir aussi sur la déclaration de Jules qui pense que c'est une manœuvre du Rwanda.
D'emblée, je ne le vois pas. C'est vrai que l'histoire avec le Rwanda n'est pas toujours une histoire de paix. Lorsqu'on sait bien que les troupes rwandaises étaient sur le territoire congolais, la preuve, c'est les rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Mais de là, je ne pourrais pas vous confirmer sur ces plateaux que c'est une manœuvre du Rwanda. Mais vous savez que dans la sous-région des Grands Lacs, rien n'est certain, rien n'est sûr. Mais pour l'instant, je n'ai pas des éléments qui peuvent me pousser à confirmer que ça serait le Rwanda qui a réalisé ou l'action du Rwanda qui a poussé les FDLR à faire une telle déclaration. Je ne le pense pas. D'emblée, je ne pense pas à une telle hypothèse.
Alors, il y a aussi Maurice de Kinshasa qui va un peu dans le même sens, qui dit que les FDLR version originale n'existe plus. Celle qui existe, c'est le mouvement qui existe à ce jour, c'est la version du président Kagame.
Aussi, je ne suis pas en mesure de confirmer ce que l'autre auditeur vient de le dire. Peut-être que lui, il a des éléments un peu plus probants pour étayer ce qu'il vient de dire. Mais je sais aussi qu'à l'est du Congo, au nord Kivu, au sud Kivu, il y a des bandits, des gens qui prennent les armes et qui se font passer pour des FDLR. Donc ça existe, ça aussi. Donc de plus en plus, on a assisté à des phénomènes de coupeurs de route, des cas de viol. Ils se font passer pour les FDLR. Raison pour laquelle il faut terminer cette histoire des FDLR une fois pour toutes. Soit militairement, et les faire vraiment efficacement comme on l'a fait avec la M23. Et je pense que s'agissant des opérations conjointes, puisqu'on a déjà mené des opérations conjointes dans les temps, il faut évaluer pour que les prochaines opérations contre les FDLR n'emportent pas des dégâts collatéraux, parce que nous, on en a souffert hein, à Walikale. 60 personnes sont mortes, comme je le dis, dans les groupements Wallo à Luanda. Il faudrait voir dans quelle mesure cette déclaration, voire les prendre au mot, comme je le disais, à travers la MONUSCO et voir dans quelle mesure on peut réaliser et les regroupements, et les désarmements,
merci,
et les rapatriements.
Merci, maître Juvenal. Professeur Bouendoua, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Vienne, je crois, oui, de Vienne pour vous.
Franck Mboni, à partir de Vienne, en Autriche, la décision des FDLR de déposer les armes en vue de poursuivre leur lutte de manière pacifique nous semble comme un tournant assez décisif par rapport à toutes les questions et initiatives en vue du retour d'une paix durable dans l'ensemble de nos territoires concernés. Mais évidemment, la garantie de telles décisions dépend de plusieurs autres paramètres et enjeux. D'une part, comment seront-ils gérés de l'intérieur du territoire congolais où ils se trouvent depuis 20 ans? De l'autre, comment leur décision actuelle est-elle perçue par les autorités politiques rwandaises en place? Est-ce que le gouvernement rwandais sera-t-il favorable pour leur retour au Rwanda? Dans quel conditionnement seront-ils placés de part et d'autre? Et aussi, comment seront-ils gérés du côté de la communauté internationale? Voici les quelques questions qu'on peut se poser et lesquelles doivent être éclairées.
Alors, professeur Bouendoua, cet auditeur de Vienne pense que cette déclaration, cette décision des FDLR était peut-être considérée comme un tournant assez décisif par rapport à toutes les questions initiatives en vue du retour d'une paix durable dans l'ensemble des territoires concernés par ces phénomènes FDLR.
Je vais d'abord appuyer la ministre de l'honorable Juvenal Mouloubi. Vous savez, le problème, je pense que le ver est dans le fruit, le mal est profond, la vérité est cruelle, mais cessons de nous raconter des histoires. Nous savons très bien que l'arrivée de ces FDLR au Congo est due à une sorte de beaucoup de raisons même, nous n'y sommes plus là. Mais grosso modo, actuellement, arrivons quand même à nous dire que sur la scène, il vaudrait mieux que nous sachions qu'est-ce que nous voulons faire. Sortons par le haut, ce que nous n'avons pas réussi à résoudre par le bas. Je pense que les tergiversations du Rwanda, son indécision, ses défis à l'égard du Congo, ne peuvent nous pousser que nous à nous dire que si ces FDLR, qui sont depuis plus de 20 ans, qui sont des Congolais, mariés à nos filles et nos filles mariées à leurs hommes, nous savons maintenant qu'ils sont d'entre nous. Oh, n'ayons pas peur de dire la vérité elle est cruelle. J'ai vu par exemple le moine de Kalongé aller négocier avec FDLR parce que tout simplement, il se rendait bien compte qu'il ne pouvait pas faire grand-chose.
Mais professeur,
si on arrivait à... Oui.
Professeur, est-ce que cette décision pourrait favoriser le retour de la paix dans la région?
La paix dans la région est un dialogue franc et massif et réel et vraiment sans confusion ni sans contorsion avec le gouvernement rwandais. S'il ne le veut pas,
Tout le monde ne parle pas swahili, professeur.
Je suis vraiment d'une culture non belliqueuse de par ma formation, mais je n'accepte pas que notre pays soit mis à genoux pour négocier sempiternellement avec le Rwanda pour des questions qui ne nous concernent pas. Les questions, nous avons ouvert les frontières en 1994, j'étais professeur à Goma, je me souviens très bien, tout le monde est entré, nous avons laissé cela. Mais cela ne doit quand même pas nous dévoir des souffrances éternelles. Mais si le Rwanda, le gouvernement actuel ne veut pas récupérer ces gens, mais les gens qui étaient venus là, ils ont plus de 20 ans, ils sont citoyens congolais parce qu'ils sont nés sur notre sol. Leurs filles, nous sommes des Rwandais, les Rwandais sont des Congolais. Excusez-moi, je le dis comme ça, de manière abrupte. Mais quand même, ça ne devrait pas nous faire un problème.
Merci.
Pour nous autres Congolais. Mais si nous sommes dans une situation où il faut qu'on fasse des contorsions, de sorte de circonlocutions quand on s'adresse au Rwanda, je ne suis pas d'accord. Parce que le mal, il est dans notre système politique qui entretient des mauvaises relations avec le Rwanda à des niveaux diplomatiques, culturels, idéologiques.
Merci,
qui, moi, ne me paraissent pas plausibles.
Merci, professeur. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, est-ce que je vous repose aussi la même question? Est-ce que cette décision de M23 pourrait favoriser le retour de la paix dans la région des Grands Lacs en général et au Nord Kivu en particulier?
Je pense qu'un des éléments qui déstabilise la paix dans la région des Grands Lacs, c'est effectivement les FDLR ou alors les génocidaires rwandais qui ont commis des crimes dans ces pays-là. Et que donc aujourd'hui, lorsque les FDLR même disent qu'ils déposent les armes, qu'ils veulent rentrer chez eux pacifiquement, la garantie d'un bon aboutissement à cette déclaration se situe à trois niveaux. Le premier niveau, moi je le passe au niveau du Rwanda lui-même. Il faut que les Rwandais saisissent là-bas leur bon pour dire que cette déclaration, eh bien, crée une ouverture. Parce qu'on ne doit pas tout le temps croire que tout ce qui s'appelle Rwandais se trouvant à l'extérieur s'appelle génocidaire. Donc ça, c'est la première garantie si les Rwandais acceptent. Parce que si les Rwandais n'acceptent pas que les FDLR rentrent chez eux, eh bien, on continuera à croire que c'est lui qui alimente tous ces réseaux à l'est de la RDC pour continuer à avoir des prétextes. Alors, la deuxième garantie, c'est au niveau de notre pays lui-même. Il doit se saisir de cette déclaration pour saisir à son niveau les instances régionales, la CIRGL, la SADC, l'Union africaine, pour que le même processus qui a été déclenché en sa faveur pour résoudre la crise le soit pour les Rwandais à l'égard de ces FDLR. Et le troisième niveau de garantie pour moi se situe au niveau de la MONUSCO. Si la MONUSCO qui est présente au Congo saisit là-bas le bon, eh bien, elle va aider à regrouper tous ces FDLR parmi lesquels il n'y a pas que des génocidaires. Parce qu'à mon avis, je sais que tout ce qui s'appelle génocidaire doit passer devant la barre, doit passer devant la justice. Mais les
Merci.
Autres, on doit faciliter à ce qu'ils rentrent chez eux. Parce que si on analyse les pouvoirs au Rwanda, ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui au Rwanda ont été en exil pendant 30 ans. On ne doit pas dire, on ne doit pas comprendre que eux qui ont été en exil pendant 30 ans acceptent que d'autres restent éternellement à l'extérieur comme s'ils n'étaient pas des Rwandais, comme s'ils ne peuvent pas bénéficier des avantages de ces pays-là. Donc je crois que c'est à ces trois niveaux, au niveau du Rwanda, au niveau de notre pays, au niveau international, qu'on doit saisir cette déclaration et déclencher des processus qui permettent effectivement qu'il y ait une ouverture
Merci,
de manière
monsieur.
À ce que ce qui s'est passé chez nous le soit pour les
Merci,
Rwandais.
Merci, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur le gouverneur. On considère cela aussi comme votre conclusion. On n'a plus beaucoup de temps. Maître Juvenal Moubo, je veux vous demander aussi de conclure, mais rapidement, il y a Robert Bahomé qui dit ceci. Je pense que cette décision des FDLR de déposer les armes est loin de favoriser la paix dans la région des Grands Lacs, car la paix n'est pas seulement le seul fait des FDLR dans cette partie de l'Afrique.
Oui, bien sûr, il faut voir, il n'y a pas que les FDLR, il y a les ADF, il y a les Maïma, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais même si les FDLR, on dirait ici, où ont séjourné pendant longtemps, on ne doit jamais imaginer l'hypothèse où ils deviendront un bloc des Congolais. Ça, il faut vraiment écarter, raison pour laquelle nous devons nous battre pour qu'ils rentrent chez eux, pour qu'il y ait des conditions de retour favorables et pour qu'ils déposent effectivement les armes. Et ce n'est pas une question qui doit être réglée par les Congolais ou entre les Congolais et les Rwanda seule. La communauté internationale qui les a vus traverser avec armes et bagages devrait contribuer à résoudre définitivement, à nous aider à résoudre définitivement cette situation.
Merci Maître Juvenal Mounoubo. Professeur, en un mot, conclusion.
Conclusion, je vais rappeler tout simplement une étude de mon ami Aimé Jules Mourou là, qui me disait qu'en fait les cartes minières et les cartes d'occupation nous rappellent tout simplement que les FDLR ont des empointances à l'étranger, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi, qui doivent nous remettre à l'idée tout simplement qu'il faut une sorte d'analyse beaucoup plus globale et profonde de la question.
Merci professeur Bouendoua, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Dimati Samuel Kachar, sur la supervision de Julien Niamoni, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Mimi Pindou, qui est à la mise en onde de micro au Kéline Kouté. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.